si on peut parler des répertoires d'action collective en commun, ce serait plutôt entre le mouvement des Indignés de 2011 et le mouvement Gezi de 2013. Un point en commun entre le mouvement de Gezi et le cas de la Grèce de décembre 2008, c'est plutôt la mort d'un jeune enfant de 15 ans dans les deux pays, en Grèce d'Alexis Grigoropoulos et en Turquie de Berkin Elvan, qui ont servi de point déclencheur, on pourrait dire, de la révolte. Pourtant, en Grèce, serait dans un contexte différent, parce que c'était plutôt dans une situation stable, qui avait pourtant des petits indices de quelque chose va s'éclater. C'était dans un contexte de mobilisation à partir de l'année 2006-2007 sur la question des réformes sur l'éducation. Et l'assassination d'Alexis a servi de point de déclencheur pour la révolte.
La différence, le mouvement de Occupy Central qui a lieu en 2014 a évidemment d'autres caractéristiques en raison du régime politique qui n'est pas le même. L'adversaire reste le même, c'est le Parti communiste chinois, mais le régime n'est pas le même. Il y a des libertés fondamentales qui existent à Hong Kong, mais évidemment, lorsque le Parti communiste donne une espèce, prend une décision, elle est irrévocable. Et le mouvement existe justement pour essayer de faire changer d'avis au Parti communiste, pour essayer d'obtenir l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel direct. Et c'est quelque chose qui va donner lieu à une occupation du centre névralgique de Hong Kong, au cours de laquelle tous les groupes de la société civile de Hong Kong vont venir s'exprimer. Il y aura une scène au milieu où chacun peut s'exprimer pendant 2 minutes, à la différence de Tiananmen, où il fallait montrer patte blanche pour arriver à la tribune. On a donc une différence assez forte entre les deux, mais il y a la hantise de Tiananmen au moment du mouvement des parapluies. C'est-à-dire qu'on craint que le Parti communiste ne réprime violemment le mouvement. Alors, il y a cette espèce de tension entre un mouvement qui est celui d'une ville postmoderne, extrêmement développée, et qui se bat avec un régime qui est un régime très archaïque, qui est celui du Parti communiste. Donc, c'est quelque chose il y a des différences et des ressemblances avec Tiananmen. Il y a cette idée, justement, de vouloir se battre pour l'individu, non pas pour la nation, mais quand même en même temps pour affirmer l'existence de Hong Kong. Donc, il faut cette place, c'est pas une place d'ailleurs, mais le lieu qui est sous occupation, préfigure aussi dans une certaine mesure la société idéale que voudraient créer les militants qui participent à ce pouvoir, à cette occupation, et qui ont attiré énormément de gens qui n'étaient pas du tout politisés. Donc le même phénomène, ce même phénomène d'agrégation de l'ensemble de la société autour de ce mouvement d'occupation qui a eu lieu à Tiananmen avec les visites des millions d'ouvriers qui venaient apporter leur soutien, et à Hong Kong, des gens qui descendent à la sortie du boulot et qui viennent participer à ce mouvement des parapluies.
Donc le mouvement des parapluies à Hong Kong se distingue particulièrement par le fait que c'est un mouvement expressif plutôt qu'un mouvement instrumental. C'est un mouvement pour la démocratie, mais dont en fait la revendication centrale avait déjà échoué avant que le mouvement commence d'une certaine façon, puisqu'il est déclenché par le fait que le gouvernement central chinois a refusé d'accorder le suffrage universel au territoire hongkongais. Donc à partir de ce moment-là, ce mouvement pour la démocratie devient Donc non pas un mouvement instrumental qui cherche à obtenir quelque chose de concret, mais plutôt un mouvement qui essaye de mettre la démocratie en acte, d'être un mouvement démocratique par l'exemple, d'une certaine façon. Et donc cette revendication démocratique, elle s'exprime pas comme une sorte de slogan abstrait, mais plutôt elle se décline dans toute une série de domaines, donc à la fois dans des pratiques qui ont lieu sur le site d'occupation, donc que ce soit les salles d'études où les étudiants font leurs devoirs, que ce soit les cours d'anglais, que ce soit le jardin bio où ils font pousser des légumes, que ce soit les ateliers d'art, etc., etc. L'essentiel du mouvement devient en fait cette façon de vivre la revendication démocratique. Et donc une de ses caractéristiques vraiment très frappantes, c'est la création artistique. Et donc la création de toutes ces œuvres, d'œuvres textuelles, d'œuvres visuelles, souvent avec des matériaux recyclés, des objets étonnants, enfin le fameux bonhomme parapluie qui est fabriqué entièrement en bois recyclé. Et donc tout ça, ça devient en fait l'essentiel même du mouvement. Donc quand on a parlé a posteriori de la question de savoir si ce mouvement avait réussi ou avait échoué, d'une certaine façon, on peut dire que il n'y avait pas de réussite autre que celle de vivre jusqu'au bout cette espèce de pratique démocratique qui s'est instaurée dans les zones occupées.
Après les années 2010, il y a eu l'émergence des nouveaux mouvements qu'on peut appeler comme alter-activisme, parce qu'ils ont des points communs, ils ont des caractéristiques communes. Ce sont des mouvements spontanés, non hiérarchiques, qui n'ont pas de leader, qui n'aiment pas la représentativité. Donc vraiment, c'est l'expérience d'une sorte d'autonomie que l'on crée dans un espace occupé. Et c'est à partir de cette expérience d'autonomie que l'on se créait une autre définition de la politique. On se politisait autrement. C'était une expérience qui était importante. Alors que à la fin de ces mouvements, on s'est dit, voilà, il y a les nouveaux sujets politiques qui émergent dans beaucoup de sociétés. Mais juste après, même parallèlement, c'est très proche en ce qui concerne la date. Il y a eu l'émergence des autres mouvements qui peuvent être appelés comme des contre-mouvements. C'est quoi le contre-mouvement dans la sociologie? C'est qu'ils émergent en réponse à un autre mouvement. Et ils répondent en fait les suggestions faites par le mouvement social. Et par exemple, qu'est-ce qu'il faisait? Le contre-mouvement en Turquie, c'était juste après la tentative de coup d'État de 15 juillet 2016, il y a eu l'émergence d'un mouvement que l'on appelle l'éveil de la démocratie. Et c'était des mouvements verticaux, ils étaient provoqués par le gouvernement. Et c'était le gouvernement qui invitait, qui interpellait en fait les citoyens, ces citoyens, à venir se placer dans les espaces publics pour protester contre le coup d'État auprès du gouvernement. Donc être près du gouvernement, déjà, ça fait que vous n'êtes pas un mouvement social, que vous êtes des supporters du gouvernement. Et à part ça, ils s'organisaient d'une manière verticale. Ils adoraient l'adoration d'Erdogan, c'était l'identité même de ce mouvement. Tous ceux qui se réunissaient dans les espaces publics pour contester la tentative de coup d'État et pour, si vous voulez, manifester leur adoration pour la démocratie, ils étaient là et ils partageaient un point commun, c'était l'admiration d'Erdogan. Et cette admiration d'Erdogan, ça veut dire en même temps que adoration du leader, ça représente l'incorporation par le leader du mouvement. Et de tous les acteurs sociaux se réunissaient autour d'Erdogan. La verticalité du mouvement était contre la spontanéité de la contestation qui était proposée par Gezi. Et leur suggestion politique était de renverser la suggestion politique des Gezici, des acteurs de Gezi. Les acteurs de Gezi, ils étaient pour une autonomie politique, pour créer une certaine expérience d'autonomie politique, alors que ceux qui sont du côté des veilles de la démocratie, ils sont pour supporter en quelque sorte un régime hiérarchique basé sur l'admiration d'un leader politique qui est censé incorporer tout le sens, toutes les significations politiques de ces gens qui se réunissent dans les espaces publics.